Bonjour à tous, bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Arnaud.
Vous vous souvenez de cette phrase attribuée probablement à tort à Albert Einstein qui disait « Si les abeilles disparaissaient, les hommes n'auraient plus que 5 ans à vivre ».
Oui, et bien espérons que cette phrase ne se vérifiera pas parce que ces butineuses jouent un rôle très important dans la nature.
Tout part de la pollinisation. Attention, les abeilles. Aujourd'hui, les abeilles, c'est le nombre. Quand on vous dit que dans une ruche, c'est pour ça qu'on se tague, en vous disant qu'il y a 80 000 abeilles, c'est le nombre. Ok, 80% de la pollinisation est faite par les abeilles. Si les abeilles disparaissaient, on le sait, 4 ans après, c'est fini. On a des questions à se poser.
En moyenne, chaque année, 300 000 colonies d'abeilles disparaissent. Et cette importante mortalité dans les ruches a même fait baisser la production française de miel de 12 000 tonnes depuis 1995. Et pour beaucoup de scientifiques, les pesticides seraient responsables de cette hécatombe. À l'occasion du 41e congrès Apimondia, qui se tient à Montpellier dans l'Hérault, nous ferons le point sur ces questions avec des spécialistes des abeilles. Mais ce sera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Resacraliser cette eau, lui redonner sa juste place, parce que l'eau, c'est la vie, et l'eau est à l'origine, c'est ce liquide miraculeux qui a permis à toutes ces formes qu'on connaît, à la vie en général, de se procréer, de vivre.
Et oui, tout de suite, c'est le jeu de cette première partie. On décortique l'actualité environnementale avec notre témoin du jour. Bonjour Daniel Mitterrand.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de France Liberté, une fondation que vous avez créée qui se positionne sur différents terrains, notamment la défense des droits de l'homme, l'autodétermination des peuples, le respect de la planète, mais aussi le droit à l'accès à l'eau. Et ce droit, c'est aujourd'hui l'un des grands enjeux mondiaux.
Certainement. Lorsque nous avons compris, en recevant des témoignages de plus en plus récurrents de populations qui s'inquiétaient de l'avenir de la vie, parce qu'ils souffraient de manque d'eau, surtout d'eau polluée, nous avons compris que le préalable à toute défense des droits de l'homme, c'était de défendre le statut de l'eau pour que l'homme y ait accès.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai combat parce que, pour l'instant, c'est difficile de mener ce combat.
Vous n'êtes pas très entendu, mais de plus en plus. C'est difficile parce que nous vivons dans un système où tout doit être rentable et commercialisable, et que cette monétarisation de la vie est devenue un véritable enjeu pour la survie.
Alors, pour commencer notre tour de l'actualité, Arnaud, il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire du Probo Koala, ce bateau qui avait vidé en 2006 ses cales pleines de liquide toxique dans différents endroits de la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire.
L'affréteur du Probo Koala, voilà, la multinationale Trafigura, qui a toujours refusé d'établir un lien entre les 500 tonnes de résidus toxiques qu'elle a déchargées à Abidjan et les nombreuses victimes qu'il y a eu, a de nouveau rejeté avec véhémence jeudi un rapport de l'ONU qui établit un lien solide entre cette pollution et les victimes à Abidjan. Une pollution qui, d'après les autorités, aurait fait 15 morts, 69 hospitalisations et aurait occasionné 108 000 consultations médicales. Retour sur ce qui s'est passé à Abidjan dans les jours qui ont suivi cette terrible nuit du 19 août 2006.
Une odeur persistante d'œufs pourris alourdit l'atmosphère d'Akouedo dans la banlieue est d'Abidjan. Une odeur qui est apparue dans la nuit du 19 au 20 août, quand une ronde de camions-citernes a déversé dans 9 sites 400 tonnes d'un liquide puissamment toxique. Nausées, vomissements, toux, démangeaisons, problèmes respiratoires ou cutanés, les autorités médicales dénombrent déjà 3 décès et 1500 personnes intoxiquées. La population n'en peut plus et manifeste sa colère.
Nous en avons marre. Nous en avons marre. Nous ne voulons pas être un dépotoir de pays développé.
Daniel Mitterrand, vous avez entendu la phrase de ce monsieur, là, pour finir, qui dit « Il y en a marre, nous ne voulons pas être le dépotoir des pays développés. »
Bien sûr, je comprends cette réaction. Mais on ne se pose pas la question de savoir aussi ce qui se passe dans ces océans. Et lorsqu'on voit des bandes de baleines, moi j'ai une tendresse particulière pour les baleines, je ne sais pas pourquoi, venir mourir, échouer, bon, c'est elle aussi, cet environnement de l'océan qui est leur habitat, est devenu invivable.
Alors là, l'affaire du Probo Koala, c'est vrai que
ça atteint les hommes, ça atteint, bon, ça atteint la vie dans son ensemble.
Mais ça pose la question de la responsabilité de ces entreprises, hein, qui opèrent, qui se permettent peut-être des libertés dans certains pays qu'elles ne se permettraient pas ailleurs.
Certainement, certainement. Allons jeter chez le voisin. C'est un réflexe dramatique. Mais c'est, vous savez, la Terre est devenue tellement, la planète est devenue tellement petite. Il y a de la place pour tout le monde, à condition que chacun respecte la place dans laquelle il vit.
Alors, autre sujet dans l'actualité en ce moment, c'est la semaine de la mobilité urbaine. Je ne sais pas comment vous êtes venu à cette émission, Daniel Mitterrand, mais tous les jours, nous posons notre regard sur une initiative. Et aujourd'hui, c'est Sébastien Farcy qui nous emmène dans la capitale des Philippines, car Manille, avec ses 13 millions d'habitants, est l'une des villes les plus polluées d'Asie, principalement à cause des transports. Un projet initié par le WWF a décidé de s'attaquer au symbole du pays, le Jeepney. Ces jeeps, anciennement abandonnés par l'armée américaine à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, qui sont réputés, vous savez, on en voit partout pour leur décoration flamboyante, le nombre impressionnant de passagers qu'ils peuvent transporter, eh bien, ces jeepneys fonctionnent presque tous au diesel. Alors le WWF a monté un système qui permet de financer leur reconversion au gaz naturel. Reportage Sébastien Farcy.
Ce bruit assourdissant du jeepney qui démarre au feu rouge, Alvaro Iran le connaît très bien. Cela fait plus de 25 ans qu'il conduit ces bus de ville emblématiques des Philippines. Mais depuis quelques semaines, le bruit et la fumée qui sortent de son jeepney ont quasiment disparu, car celui-ci est maintenant alimenté au gaz naturel.
Il n'y a plus de fumée, donc plus de pollution. En plus, avant, avec le diesel, je devais accélérer très fort pour avancer. Maintenant, avec le gaz, c'est comme avec l'essence. Je peux aller vite sans consommer trop. Les experts japonais m'ont dit que le moteur devrait tenir 1 million de kilomètres. Ce qui fait pour moi près de 20 ans à rouler.
Cette conversion au gaz, Alvaro a pu la faire grâce à un projet lancé en mai par l'ONG WWF et financé par des entreprises privées. Celles-ci payent environ 2000 euros pour changer tout le moteur et en échange, elles se servent de ce jeepney comme d'une bannière publicitaire ambulante pendant 2 ans. À long terme, les conducteurs économisent en plus sur le carburant car le gaz est 30% moins cher à la pompe que le diesel. Actuellement, plus de 55 000 jeepneys roulent au diesel dans la seule métropole de Manille, l'une des villes les plus polluées d'Asie du Sud-Est, et une ville où 80% de la pollution atmosphérique est créée par les véhicules. Lorenz Sotan, directeur adjoint de WWF Philippines.
LPG engine is 90%.
Selon nos tests, le moteur au gaz émet 90% en moins de particules de pollution que le moteur au diesel et 25% en moins de carbone.
6 jeepneys ont déjà été convertis par ce système et WWF pense en transformer plus d'une centaine par an. Cependant, selon Laurette Sotan, le vrai objectif pour réduire la pollution urbaine, c'est le carburant électrique.
Un des problèmes avec les batteries au lithium est que cela met près de 8 heures à se recharger et se décharge en à peine 2 heures d'utilisation. Mais on peut créer un jeepney hybride, gaz et électrique, où le gaz servirait juste à recharger les batteries électriques. Pour moi, le principal objectif avec ce projet de jeepney au gaz, c'est de montrer aux conducteurs que le changement peut être bénéfique. Et ainsi, quand on arrivera avec un projet de jeepney électrique, il y aura moins de résistance.
La ville de Makati, dans le centre d'affaires de Manille, a déjà essayé de lancer un jeepney électrique il y a 2 ans, mais sans succès pour l'instant, faute d'autorisation et d'aide publique à la reconversion.
Daniel Mitterrand, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative ? C'est vrai qu'on se dit, par exemple, là, c'est à l'initiative du WWF, on se dit le rôle des ONG sur place, c'est quand même toujours impressionnant.
Le rôle des ONG, c'est de faire des propositions, c'est d'abord d'entendre les réflexions, puis le bon sens populaire. Il y a un bon sens populaire qui doit éveiller notre réflexion. Et est-ce que c'est d'aller toujours plus vite ? Est-ce que c'est d'aller toujours plus loin qui optimise la qualité de la vie. J'ai une anecdote dans ce domaine, je ne sais pas si j'ai le temps de vous la raconter.
Mais si, on va le prendre.
D'un Indien de Colombie qui vient en France et puis on l'emmène visiter la France et il veut prendre le TGV. Et au bout d'un moment, il dit « Et jusqu'où vous voulez aller plus vite ?» effrayé justement par la vitesse du TGV, par tous ces tunnels, parce que pour l'Indien, un tunnel signifie on traumatise la terre, on lui fait mal, on fait des trous. Mais jusqu'où vous voulez aller plus vite. Et moi, je trouve que c'est tous les matins, je pense à lui en me disant, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se précipiter vers le néant en voulant toujours aller plus vite, on ne sait même pas ce que l'on veut atteindre.
Ces peuples qui ont bien des difficultés, hein. D'après une alerte qui nous a été envoyée par l'organisation Survival, 130 Indiens actuellement d'une communauté Guarani-Kaiowa au Brésil ont été expulsés par des inconnus de leur territoire cette semaine. Leur village a été incendié et ils se sont réfugiés au bord d'une route très fréquentée où ils vivent sous des bâches privés de leurs moyens de subsistance. Alors, ce qui est assez curieux dans cette affaire, c'est que tout cela leur serait arrivé au moment où à Londres sort le film La Terre des Hommes Rouges, parce que vous avez vu ce film qui est sorti à Paris il n'y a pas très longtemps, qui met en scène justement des Guaranis qui dénoncent la situation désespérée dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui face aux éleveurs de bétail qui convoitent leur territoire. Daniel Mitterrand, vous bagarrez beaucoup sur toutes ces questions de peuples autochtones. Comment vous réagissez à cette tragédie?
Il y a déjà de nombreuses années, je crois que c'était en 92, j'avais assisté à la grande marche des Amérindiens à Quetzaltenango, au Guatemala, organisée par Rigoberta Menchú. Et j'avais entendu leur discours et leur présentation de la démocratie et j'avais été vraiment impressionnée. Et au retour, j'avais dit à François, je crois que si un jour on redécouvre les vertus de la démocratie, ce sera par les Amérindiens. Et François m'avait dit, tu as sans doute raison, mais c'est trop tôt. Est-ce que c'est encore trop tôt? On est déjà plus de 30 ans après. Et j'ai beaucoup appris des Amérindiens. Et nous travaillons beaucoup avec les Guaranis, les Ashaninkas, les différentes populations indiennes qui envisagent justement l'autre société et qui nous mettent sur le chemin de l'autre société que nous voudrions construire.
C'est bien.
Juste un extrait sur RFI dans C'est pas du vent, parce que The Editors donneront un concert ce samedi à Budapest pour soutenir la Commission européenne et sensibiliser les jeunes à la lutte contre le réchauffement climatique. Et maintenant, comme tous les vendredis, zoom sur l'actualité environnementale du Proche et du Moyen-Orient.
Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Alors on commence notre tour d'horizon par la bande de Gaza.
Oui, on a beaucoup parlé cette semaine de ce territoire palestinien, avec, on s'en souvient, la présentation du rapport de l'ONU sur la guerre de décembre et janvier dernier et ses conséquences. Mais un autre rapport de l'ONU évoque ces jours-ci la bande de Gaza, un rapport du programme des Nations Unies pour le développement qui communique cette information plutôt alarmante. La nappe phréatique de Gaza risque de connaître dans les prochains mois une forte dégradation en raison de sa surexploitation et aussi d'une contamination de la nappe phréatique aggravée par le récent conflit dont on parlait à l'instant. Si cette tendance n'est pas inversée maintenant, nous dit le programme des Nations Unies pour le développement, il faudra peut-être...
Pour l'environnement, si je peux
pour l'environnement,
permettre.
Pour l'environnement, bien sûr.
C'est pas le même programme.
Il faudra peut-être des siècles pour corriger les dégâts occasionnés. Le programme des Nations Unies pour l'environnement s'inquiète notamment de l'augmentation de la salinité de l'eau de la nappe phréatique. Pourquoi? Parce que, en raison de la surexploitation de cette nappe phréatique, l'eau de la mer, toute proche, faut pas oublier que le territoire palestinien est situé sur la côte, les eaux salées pénètrent et contaminent, entre guillemets, cette nappe phréatique. Autre phénomène, la pollution de la nappe due au ruissellement des eaux usées. Alors, je le disais à l'instant, le récent conflit a aggravé ce phénomène. Pourquoi ? Parce que pendant les trois semaines de bombardement israélien sur le territoire en janvier, l'arrêt du retraitement des eaux usées, en raison des coupures de courant, aggraver et contaminer la nappe phréatique. Selon les Nations Unies, 1,5 milliard de dollars sont nécessaires au cours des 20 prochaines années pour tenter de réhabiliter les eaux souterraines de Gaza.
Alors on reste dans la région où la question de l'eau est là aussi omniprésente. Les Égyptiens s'inquiètent des conséquences de l'activité diplomatique israélienne en Afrique.
Oui, c'est le quotidien français Le Figaro qui a publié tout récemment un article passionnant sur le sujet, alors que le ministre des Affaires étrangères israélien Avigdor Lieberman effectuait une tournée dans plusieurs pays africains, Éthiopie, Kenya, Ghana, Nigeria, Ouganda. Égypte et Israël mènent la bataille du Nil, nous dit Le Figaro, car le Caire s'inquiète d'un rapprochement entre l'État hébreu et les pays du bassin du Nil, Éthiopie, Kenya, Ouganda. Il faut savoir que ces pays réclament un nouveau partage des eaux du fleuve, alors que le traité actuel, qui date de 1929, est très favorable à l'Égypte et au Soudan, favorable en quantité, mais aussi parce que le Caire a un droit de veto sur tous les travaux qui pourraient modifier le débit du fleuve. Alors de quoi ont peur les Égyptiens ? Qu'à terme, un nouveau partage des eaux du Nil soit moins favorable à l'Égypte, c'est problématique quand on sait que 95% de la consommation en eau vient du fleuve. Et de quoi rêvent les Israéliens ? Et bien qu'à terme, une partie des eaux du Nil lui parvienne grâce à un accord avec les pays concernés.
Merci Nicolas Falaise.
C'est pas du vent.
Daniel Mitterrand, une réaction à ce petit zoom sur le Moyen-Orient, sur l'eau par exemple à Gaza ?
Un droit de veto, il a dit. Comment on peut avoir un droit de veto sur l'eau ? C'est assassiner ses voisins que de supprimer l'accès à l'eau. Il faut absolument qu'il y ait, une instance mondiale qui rétablisse
Le droit à l'eau
qui supprime le droit à l'eau, oui.
Et d'ailleurs, vous êtes en train de vous bagarrer pour essayer d'inscrire justement ce droit à l'eau dans le droit international.
On commence nos discours par l'eau universellement libre. Et en effet, c'est l'accès à la vie. L'eau, c'est le moyen d'échange. C'est un lieu d'échange. C'est un lien entre les hommes et la nature, mais entre les hommes entre eux. Le statut de l'eau doit véritablement devenir l'obsession de tous nos gouvernants.
Alors c'est un sujet peut-être que vous allez aller soutenir à Copenhague lors de la conférence sur le climat qui aura lieu en décembre.
Oui, bien je n'aurai pas la parole parce qu'ils ne veulent pas l'inscrire, le problème de l'eau dans cette instance. Et on comprend très bien un gouvernement à qui on demande d'inscrire dans sa constitution le droit à l'accès à l'eau comme un droit de l'homme, s'y refuse. Il veut bien admettre que c'est une nécessité pour l'homme d'avoir accès à l'eau, mais un besoin, une nécessité, ils ne sont pas tenus de le satisfaire, alors que si c'est un droit, ils sont tenus de le respecter. Et ça, les États n'en veulent pas.
Donc Copenhague, pour vous...
Copenhague, ça ne sera pas inscrit.
Oui. Et sinon, le principe de tous ces pays qui vont réfléchir très rapidement à la lutte contre le climat, vous y croyez ?
Oui, ils veulent bien y réfléchir, à condition que ça ne change pas leur façon de vivre.
Merci Daniel Mitterrand d'être passé dans C'est pas du vent. Vous reviendrez dans cette émission nous parler de votre philosophie. Et puis C'est pas du vent revient juste après un bref rappel de l'actualité. Nous parlerons, Arnaud,
des abeilles. À tout de suite.
À tout de suite.